Hey! Bienvenue dans Parle-moi d'amour, le podcast qui laisse parler toutes les façons d'aimer. Aujourd'hui, c'est Céline Olinsky qui vient parler d'amour. Si vous la connaissez pas, elle est comédienne, autrice et créatrice de contenu pour YouTube et Instagram. Elle est solaire et avec une communauté très bienveillante. Avec elle, on aborde la rupture, être en couple sans être amoureuse, la différence entre l'amour et l'amitié. Et petit teaser, elle nous raconte des histoires croustillantes qu'elle a pu vivre quand elle était ado, et notamment celle d'un homme qui l'a quitté pour une voiture. Place à l'épisode, je vous aime. Bonjour Céline.
Bonjour.
Ça va?
Ça va, merci.
Je suis très contente de t'avoir au podcast aujourd'hui.
Merci.
Et en plus du coup, t'as vu... Le livre ostentatoire.
Clairement, j'ai vu le second aussi dans ta bibliothèque.
Voilà.
On les reconnaît, alors jolis coloris.
Oui, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Et comme ça, il faut pas que j'oublie après d'avoir un petit mot à l'intérieur.
Pas de soucis.
J'ai remarqué que ton premier livre commençait par une rupture.
Oui.
Je vais pas déflorer le truc plus que ça.
Oui, bah de toute façon, c'est écrit dans le titre. Rupture, tarot et confiture, c'était quand même assez explicite.
C'est ça. Et la vidéo qui sûrement a le plus marché sur ta chaîne YouTube et parle de dépression.
Mm-hmm.
Après, je n'ai pas regardé les chiffres, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même fait beaucoup parler d'elle.
Alors, comme si j'allais te poser la question de comme si j'ai fait beaucoup de vidéos sur la dépression. Tu veux parler du court-métrage?
Oui, tout
Queen
à fait.
Lee, d'accord.
Ouais, oui. Et c'est venu en coïncidence peut-être au même moment où toi, t'as eu une rupture.
Alors, le fait que ce tournage se fasse, oui, à ce moment-là, c'est vraiment une coïncidence.
D'accord.
En ce sens où ce court-métrage, moi, je l'avais déjà pensé depuis quelques années.
Ouais.
J'avais jeté comme ça quelques lignes sur une feuille. Et j'ai eu l'opportunité, à un moment donné, d'être produite pour réaliser ce court-métrage.
Ouais.
En accord avec YouTube et Studio 71, qui est une production de fiction, notamment sur YouTube. Et voilà, il y a un appel d'offres, on me contacte, on me demande, et je pense à ça, donc je propose et je suis sélectionnée. Et ça devait se faire en mars.
Ah oui, d'accord, oui, donc rien à voir.
Donc rien à voir, et le confinement tombe, donc c'est évidemment repoussé. Et il se réveille en octobre.
Ouais.
Et moi en octobre, je suis en plein dans ma rupture, puisque ouais. Je connais la rupture depuis fin septembre à ce moment-là. Et évidemment que je dis oui, parce que c'est une super opportunité. On n'a pas le choix, on ne peut pas repousser à ça plus tard, parce que c'est les budgets de 2020.
Ouais.
Donc il faut que ça se fasse absolument avant la fin de l'année. Et ça parle de dépression, et donc c'est vraiment une mise en abîme.
Ouais.
C'est vraiment la mise en abîme, c'est-à-dire que je parle de dépression, je joue un rôle à ce moment-là de quelqu'un qui est en dépression, et je suis sur le tournage en pleine dépression. Donc vraiment... C'est, voilà, j'étais plus authentique, c'est impossible.
Oui, c'est ça, Actor Studio à côté.
Que Brad Pitt me contacte, je lui donne des conseils.
Mais du coup, est-ce que cette thématique de rupture, c'est quelque chose qui t'inspire particulièrement ou c'est juste parce que c'est un bon facteur d'histoire?
Je sais pas si ça m'inspire... Je crois... Alors, non. Quand on n'est pas sûr, c'est que c'est pas nécessairement la bonne réponse que de dire oui. La rupture, c'est pas quelque chose qui m'inspire plus qu'un autre sujet. D'ailleurs, là, si on reprend Queen Dee, au départ, il n'y avait pas de notion de rupture.
Moi, je l'ai vu de ouf.
Pourquoi? Parce que j'ai juste rajouté une phrase qui n'existait pas au préalable. C'est dans le personnage de la meilleure amie qui demande, à un moment donné... c'est pas encore les conséquences de ta rupture.
Ah oui, bah oui, voilà.
Et moi, je dis non, pas du tout. Mais cette phrase n'existait pas en mars, quand j'avais écrit le court-métrage. Elle n'existait pas. Et évidemment qu'au moment de se mettre à tourner, je le rajoute.
Ouais.
Parce qu'au demeurant, on peut être en dépression pour des tas d'autres facteurs, des tas d'autres raisons qu'une rupture.
Évidemment.
Donc voilà, c'est pour ça, je pense, que tu l'as pris comme ça. Et en l'occurrence, voilà, c'était aussi un moyen aussi de le transmettre pour les gens que ça aurait pu intéresser à ce moment-là, de savoir pourquoi j'allais mal, sans vouloir être trop explicite, de faire de déballage parce que c'est pas trop mon genre. Et puis pour le livre, bah, qui est un peu trop sibyllin apparemment, puisque j'ai créé un livre sur la rupture et je connais moi-même une rupture. C'est quoi? Oui, c'est quelques mois plus tard finalement. Mm-mm. C'est ça, hein, quand est-ce qu'il est sorti celui-là?
C'est peut-être écrit dedans.
Il est sorti en janvier, pas là, mais de l'année dernière. Mm. Non, il est sorti il y a... Non, j'ai sorti le deuxième... J'écrivais le deuxième déjà. Donc, ouais. Celui-là, il est sorti en janvier, donc 2020.
Ok. Voilà. Dépôt légal, février 2020, donc...
Oui, c'est ouais. Ça. Et moi, je me suis fait quitter quand? Mais attends, mais je suis au courant de rien. Eh bien si, je me suis fait quitter donc en septembre 2020.
Ok.
Enfin, septembre 2020.
Ok.
Voilà, on est en 2021, c'est bien ça. On s'en sort d'un point de vue calendaire. Donc voilà, oui, tu vois, j'écris un livre sur la rupture. Enfin, il sort en tout cas en 2020 et je me fais quitter en 2020. Mais non, à ce moment-là, la rupture, c'est pas forcément un sujet hyper inspirant sur lequel je suis obsessionnelle, qui m'inspire autre mesure. C'est juste qu'en effet, à partir d'une rupture...
Ah, il peut se passer énormément
de choses. Il se passe énormément de choses.
Mmh, mmh.
Mais quelles que soient les ruptures d'ailleurs,
oui,
que ce soit une rupture sentimentale, une rupture de vie, de comportement, de pensée en fait.
Mm.
Une rupture, c'est une remise à niveau et c'est un point de départ en fait. Donc forcément, tout est possible derrière.
C'est une si belle façon de voir les choses. J'ai vu du coup que... Si les gens te suivent et te connaissent un peu, et j'espère que c'est le cas, on a vu que du coup t'as passé quelques mois au Brésil,
ouais.
Que t'as eu des relations amicales en tout cas très fortes,
ouais.
Là-bas. Est-ce que du coup tu as une idée de comment définir une différence entre de l'amour couple et de l'amitié?
Oh! Oui, j'ai une idée. Je pense qu'on en a tous une petite.
Ouais.
Écoute, non, très clairement, moi, je pense que c'est le désir qui fait la vraie différence, en fait, le désir physique.
T'as toujours eu du désir pour des gens pour lesquels t'étais amoureuse?
Oui.
Ah ouais, ok.
Ouais. Alors après, je suis une amoureuse de l'amour qui ne tombe pas si souvent amoureuse.
Ouais.
On
s'entend. Parce que t'as aussi mentionné des enamoradas
du Brésil. Oui. Mais donc, voilà, moi, je vais aimer plein de gens, mais par contre, si je suis amoureuse, j'aurai du désir physique.
Ok.
Voilà, j'aurai une envie profonde d'avoir cet homme, puisque je suis hétérosexuelle.
Ouais.
Voilà, dans mes bras, j'ai envie de l'embrasser, de le câliner, en
ouais.
Fait, tu vois. Donc, oui, pour moi, c'est très très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois.
Ok.
Je suis très au clair avec ça, en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est un très bon indicateur pour moi quand je rencontre d'autres hommes, par exemple, où il y a très très peu de doutes,
ouais.
Très rapidement, tu vois.
Mm.
Je sais, avec l'expérience, puisque je suis un peu plus vieille maintenant, tu vois, je n'ai plus 20 ans, je suis câblée comme ça.
Ouais.
Je suis câblée comme ça, donc je sais très rapidement si je vais tomber amoureuse, ou en tout cas si je vais... pouvoir poursuivre un peu plus loin, c'est-à-dire de manière charnelle et entreprendre une relation dite de couple.
Ouais.
Parce que j'ai été en couple souvent, mais pas forcément amoureuse.
Ouais, ah ouais, voilà. Ok, d'accord.
Ouais, ça a été mon grand parcours de vie de relation de couple. J'aimais, mais j'étais pas amoureuse.
C'est quoi la différence?
La différence, c'est que je savais que je partirais un jour.
Ah ouais, ouais. Donc dès le début, tu savais
ouais,
que...
Ouais, dès le début. Et j'ai vécu des relations où j'ai été très souvent aimée.
Hmm.
Et où je me suis beaucoup laissée aimer.
Ok.
Voilà. Et où je voulais même partir. Et où l'autre ne voulait pas me laisser partir. Et pour des tas de raisons diverses, je restais.
Ouais, ok.
Pour des raisons qui ne sont pas nécessairement les bonnes, mais qui font qu'à ce moment-là, t'acceptes.
Parce que la vie se passait bien.
Parce que voilà, on n'était pas dans un conflit. Parce que... quitter cette personne alors qu'elle le refusait un peu, c'était un peu lourd à assumer, tu le dis, tu essayes une première fois, puis une deuxième fois, puis tu vois que l'autre te dit non, et puis moi je disais bon d'accord, c'est tellement lourd parce qu'il fallait tomber limite après dans un espèce de combat où tu devenais agressive ou méchante pour qu'il comprenne, et j'avais pas la force parce que j'aimais malgré tout cette personne, donc je voulais pas la blesser, c'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement des bonnes raisons, mais oui, ça m'est souvent arrivé que l'homme refuse que je le quitte. Et je me vois faire à me dire, bon d'accord, on reste. Mais parfois, certains perdaient leur dignité, hein, ou vraiment...
Ah là là.
Ouais, où il fallait que je sois très dure. Très très dure, et avec un cœur qui se déchire, parce que je ne veux pas tomber dans ça, je ne voulais pas faire ça. Mais je me disais, qu'est-ce que je peux faire de plus que de le verbaliser, que de lui dire clairement, que d'être sincère, que d'essayer de faire ça au mieux et que la personne refuse catégoriquement et essaie de négocier par tous les moyens, même quitte à me dire, j'en ai eu un qui me disait, mais on n'aura pas de rapport sexuel, reste juste dans ma vie.
Quoi? Mais non.
C'est terrible. Mais tu te rends compte de ce que tu me proposes. Tu me proposes, donc en fait, on est juste amis. Mais on garde l'étiquette de couple. Je ne peux plus, je n'ai plus de désir, je n'ai plus rien. Et tu peux pas. Tu peux pas même t'infliger ça à toi. C'est terrible, t'es encore beaucoup trop jeune. Ben, si.
Ah là là.
Ouais.
Moi, j'ai eu des relations, enfin, la plupart de mes relations, c'était un peu ça. Dès le début, je savais la raison pour laquelle ça allait se finir. À chaque fois, c'est bingo, hein.
Ouais.
Mais j'étais tellement dans le déni des sentiments que j'éprouvais pour la personne, en me disant, mais non, mais ça se trouve, c'est peurs, machin. Et à chaque fois, bingo, quoi.
Ouais, on essaie de s'auto-persuader, et encore, pour tout un tas de raisons. Parce que c'est peut-être confortable, parce que quelque part on se dit que c'est intéressant aussi d'être accompagné, des fois parce qu'on a souffert de solitude pendant un petit moment et ça commence à peser, parfois pour des raisons matérielles. Moi j'ai eu beaucoup de raisons matérielles dans ma vie qui ont fait que je suis restée en couple, parce qu'ils étaient là, ils me soutenaient, moi je suis issue d'un milieu très très pauvre, donc j'avais l'impression que j'étais plus toute seule à me battre, voilà, s'il y a un qui avait un pépin, l'autre était là, il pouvait rendre un service, ou il pouvait dépanner, ou alors on payait un loyer à deux, enfin...
Ouais.
C'est la vie qui fait ça, ça dépend de d'où on part aussi, qui font qu'on articule des relations sur des bases qui sont pas nécessairement uniquement celles sentiment, qui sont normalement les seules valables pour se mettre en couple.
On essaye.
Mais c'est pas toujours le cas, et loin de là d'ailleurs, hein. Les gens sont pas forcément ensemble pour de très bonnes raisons tout le temps. Mais ouais. On n'est pas forcément objectif et on peut s'auto-persuader que si, ça va aller, alors qu'en fait, on le sait très très tôt.
Mais oui.
Et voilà.
Et est-ce que t'as un déclic du sentiment amoureux ou c'est en amont de ta relation?
Alors,
quand t'es en couple...
Pouvez-vous reformuler, s'il vous plaît?
Oui, je suis la reine de la bafouille. quand t'es en couple avec quelqu'un, est-ce que tu es amoureuse dès les premiers instants où tu la rencontres? Ou ça vient après et que tu as un déclic amoureux?
Non, je pense que c'est très rapide.
Ouais.
Ouais, je pense que c'est très rapide puisque, en réalité, toutes les fois où je suis restée avec des hommes, où je ne sentais pas cet élan très tôt, très 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 tôt, hein, vraiment, le sentiment amoureux ne s'est pas développé.
D'accord.
C'est pour ça que je te dis, je les ai aimés. Je les ai aimés comme des amis très 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 proches, voilà, de manière presque familiale, où j'étais en confiance, où on partageait énormément, que ce soit du rire, des projets, des voyages, etc. Mais ce sentiment réellement amoureux n'est pas venu.
Mais du coup, comme tu disais que l'amour dans un couple, c'était lié au désir, est-ce que du coup, dans ces relations-là, tu avais un manque de désir?
Oui.
Oh là là. Ok.
Oui.
Pourquoi se forcer?
Eh ben c'est ça.
Oui.
Eh ben c'est ça. Et moi je suis la pro pour rester avec des hommes très longtemps alors que je ne suis pas amoureuse d'eux.
Oh.
Alors j'ai essayé de couper court à un moment donné à ce schéma-là et je suis tombée encore sur plus tenace. Vraiment, à chaque fois que j'essayais de dire non, stop, c'est non, mais tu as peur, mais c'est normal, c'est parce que tu veux pas t'engager. Alors je t'assure, je n'ai pas de problème avec l'engagement. je pense vraiment que là, bon, tu vois, ça fait 2 mois, je pense que non, en fait. Tu vois, non. Après, bon, moi j'ai aussi la croyance que parfois dans la vie, on est en relation avec des gens, pas nécessairement pour expérimenter l'amour, mais pour qu'ils vous apportent autre chose.
Ah, je suis bien d'accord.
Et même si parfois ça fait long, parce que moi je suis restée quand même plusieurs années à chaque fois avec tous ces hommes, hein, je fais que des relations longues. Le dernier c'était 6-7 ans, l'avant-dernier c'était aussi 6 ans. À chaque fois, ces hommes m'ont apporté quelque chose dans mon évolution. Alors, on va dire évolution personnelle, évidemment, puisque de toute façon, c'est toujours enrichissant, on avance, le temps passe. À moins d'être complètement hermétique à l'introspection, ne serait-ce que la plus basique, on évolue.
Ouais.
Mais aussi, d'un point de vue, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, ils ont été aussi à la base de certains projets que j'ai pu faire, certains apprentissages, certaines réalisations professionnelles. S'ils n'avaient pas été là, non pas que ce soit eux qui ont tout fait pour moi, mais voilà, ils avaient peut-être la connexion avec la personne qui a pu observer mon travail et me donner une possibilité de création, etc. Donc, en fait, je leur dois, malgré tout, beaucoup de choses.
Ouais.
Mon ex-ex travaillait en télé, et c'est grâce à lui que d'un seul coup, j'ai été en contact avec un producteur de télé-animateur qui cherchait, en fait, des scénaristes, et puis d'un seul coup, j'ai pu montrer que je savais écrire, et j'ai écrit énormément de scénars à la télé.
Ok.
Moi, je n'aurais pas eu accès à ce réseau-là sans cette personne.
Mmh.
Voilà.
Ok.
Et aujourd'hui, grâce à ça, j'ai pu avoir un peu d'argent de côté. Et pour quelqu'un qui est issu d'un milieu où il n'y a pas de finances, je me dis que ce n'est pas le hasard.
Ouais. Voilà.
C'est que la vie m'a quand même offert l'opportunité de me mettre un peu à l'abri au regard de là où, d'où je viens, où vraiment, voilà, si je tombe, personne ne me rattrape.
Ouais, mais en plus en faisant quelque chose que tu aimes et...
Oui, oui, oui.
C'est quand même pas négligeable, quoi.
Et pour lequel, apparemment, j'étais douée puisqu'on me rappelait, quoi. Donc ça
va. Ok. On a dévié de mes questions, mais c'est pas très très grave. Est-ce que tu as souvent dit « je t'aime » ?
Oui. Oui. Oui.
Ouais, c'était facile pour toi de le dire ?
Alors, au tout début, quand on est jeune, pourquoi je n'avais pas de problème à dire je t'aime de moi-même.
Ouais.
C'est pas moi qui ai un problème à dire je t'aime. Tu sais, des fois, des gens te disent c'est dur pour moi de m'exprimer là-dessus. Moi, je peux te dire je t'aime. Là où j'avais peut-être plus une crainte, c'est que l'autre soit effrayé par mon je t'aime.
Ah ouais, ok. Ouais.
Et tu sais que tu perds un petit peu la face, qui se disent mon Dieu, elle est acquise, ou des choses de genre.
Ouais.
Et donc. C'était plus pour éviter de le faire fuir, entre guillemets, que je pouvais peut-être me restreindre au début. Maintenant, comme je t'ai dit, j'ai une expérience relationnelle qui est plutôt de l'ordre de l'homme plus aimé ou plus rapidement aimé, peut-être. Donc en fait, j'avais des « je t'aime » assez rapidement.
Ok.
De la part de l'homme. Donc j'étais en confiance pour le dire moi aussi.
Donc c'est souvent lui qui te le disait en premier ?
Oui.
Ok.
Oui.
Et toi, tu mets quoi derrière ces mots-là ?
Bah, quand ils sont vraiment dits, le « je t'aime », c'est « je suis bien là
ouais. ».
Je suis heureuse d'être avec toi là, tu es important et je veux que tu le saches. Tu m'apportes du bonheur.
Ok.
Ouais.
C'est trop beau.
Ouais.
Comme tu faisais référence un peu à... quand t'avais 20 ans et maintenant, est-ce que tu aimes de la même manière ou ça a changé ?
Eh ben j'en sais rien du coup. Je sais pas parce que mes relations... Mon tout premier amour, j'étais très amoureuse de lui, j'avais 16 ans et demi, il en avait 23 et demi. Donc là j'étais certaine que j'étais amoureuse.
Ouais.
Mais je l'ai su dans la minute.
Aïe aïe aïe.
Tu vois, je l'ai su, je l'ai vu dans la rue. J'ai dit waouh.
Le coup de foudre.
Ouais, un peu, tu vois. Il était magnifique, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde. Non, nous ne sommes pas sûrs, bref. Et rentre dans un tabac et je me dis qu'est-ce que je fais. J'ai 16 ans et demi quand même, j'avais couillu, hein. Je décide de traverser, d'aller l'aborder.
Incroyable
quand même, tu vois, la minote. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, il savait que j'allais le voir parce que la porte était vitrée. Et il regarde, et il ouvre la porte, il me dit oui. J'étais presque vexée, j'allais lui dire non, rien, je vais chercher des cigarettes même si je ne fume pas.
Finalement, je me suis trompée d'adresse.
Ce n'est pas pour vous que je viens. Et voilà, et je lui ai demandé s'il avait un numéro de téléphone.
Ok.
Ce à quoi il m'a répondu non.
Oh ! Oh la violence !
Mais c'est parce qu'il n'avait vraiment pas de téléphone. Puisqu'il me disait non, mais par contre, j'habite à deux pas d'ici, donc là j'ai dit bah non, quand même pas. Je ne peux pas aller chez toi. Et on s'est donné rendez-vous 2 heures plus tard dans un bar pour discuter. Il n'avait pas de téléphone.
Ok.
Mais c'était. T'imagines, c'était à 20 ans, donc c'était pas incongru de pas avoir de téléphone. Aujourd'hui, ça nous semble improbable, mais.
Oui, certes.
Il y a 20 ans, tout le monde n'avait pas encore de téléphone portable. Et là, j'étais très très amoureuse. Quelle était ta question déjà ?
Est-ce que tu aimes de la même manière avant et maintenant ?
Mais j'étais pas comblée.
Ok.
Voilà. Par contre, autant j'étais folle de lui, autant par contre je savais que j'allais le quitter parce qu'il ne... C'était incompatible. Ses valeurs étaient un peu incompatibles. Sa manière, lui, à lui d'aimer, Elle ne me correspondait pas, ne me satisfaisait pas.
Ok.
Donc, j'avais conscience que je le quitterais. J'attendais juste d'être capable de le faire. Voilà. Mais je savais que ça allait être violent. Et donc, j'avais réalisé que je serais plus malheureuse sans lui qu'avec lui, même si j'étais un peu malheureuse avec lui.
Ouais.
Donc, à partir du moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit, bon, bah, essaie de profiter pendant que t'es avec lui. Et un jour viendra le moment où tu seras forte et suffisamment détachée pour...
Sauter pas.
Et ensuite, j'ai eu des relations où j'ai aimé sans être amoureuse. Ça a duré quand même sur peut-être 4 hommes, sur plusieurs années. Et ensuite, bah là, ma dernière relation, là, j'étais amoureuse.
Ok. Voilà.
Et non, je crois que j'étais tout aussi enthousiaste.
Ouais.
Ouais. Non, mais moi, je suis une... Mais je crois que je reste une gamine au début qui s'emballe, on est très contents, tu vois, on est très enthousiaste, mais c'est ça que je trouve magnifique.
Bah, le sentiment amoureux, je trouve que ça nous connecte vachement avec une part intemporelle de nous-mêmes.
Mais c'est formidable, tu vois, c'est formidable. Est-ce qu'on n'a pas déjà tous connu ce sentiment quand on est ravi d'aller voir son date qui nous emballe un peu? Alors, t'as beau dormir 3 heures, écoute, tu retrouves l'énergie, tout va bien, tes problèmes s'amoindrissent, rien n'est insurmontable, mais parce que ça te galvanise.
Ouais.
Et non, moi je retrouve ça. Hein.
Ok, et tu disais que du coup cette première relation elle te comblait pas.
Ouais.
Est-ce que tu penses qu'on peut être réellement comblé dans une relation amoureuse?
Je pense qu'on peut trouver un équilibre par rapport à nos valeurs et à nos attentes. Là en l'occurrence, dans le premier, on était sur une incompatibilité que je ne pouvais pas soupçonner encore, étant donné que j'étais beaucoup trop jeune, mais. Je n'avais pas connu ça, il était radin.
Ah, oh, mais non.
Et oui. Et c'était très problématique pour moi parce que moi j'avais 16 ans et demi, donc on imagine bien que j'avais encore moins d'argent que lui qui en avait 23 et demi, même s'il n'était pas extrêmement riche parce qu'il était en apprentissage, mais enfin. Mais je me débrouillais en fait pour que les moments qu'on puisse vivre ensemble, que ce soit un verroi, c'est des moments de qualité. Donc ok, j'avais mon petit budget, mais il était pour nous. Lui, il était capable de radiner pour un café. On va pas boire un café dehors, on en a à la maison.
Mais
alors, le concept, ce n'est pas les 2 euros qu'on va dépenser dans un café. Le principe, c'est d'aller se balader, de se poser en terrasse et de vivre un petit moment. Donc, on en était là quand même.
Ouais.
Et pour moi, un radin financier, enfin, sur le point de vue financier, et possiblement un radin de temps, d'écoute, de sentiments, je trouve que ça peut, je ne dis pas pour tout le monde, mais ça peut voilà, être... être impacté sur d'autres choses qui sont pas de l'ordre du matériel.
Oui.
Voilà, et c'est un peu tristoun parce que ça manque d'élan. Ça manque d'élan de vie, en fait. Et tout était très, très, très calculé. Tout était très calculé. Une fois, il m'a quittée avant l'été, sans raison. Mais vraiment sans raison. C'est quand même très, très étrange, cette histoire.
Pour avoir son été tranquille.
Parce qu'en fait, il voulait économiser l'argent qu'on allait mettre dans les vacances parce qu'il avait besoin d'une nouvelle voiture.
Il pouvait pas juste te dire
«
je veux économiser pour une nouvelle voiture ».
Mais je pense qu'il a eu tellement honte et qu'il assumait tellement pas qu'il a préféré prendre le risque de me perdre. Et donc moi, je soupçonne ça. J'en parle à l'époque avec mon meilleur ami qui me dit « ah, ça c'est bien de Christophe, ça franchement, ce serait du Christophe ». Mais c'est improbable, t'imagines. On est quand même, je sais pas, ça fait peut-être un an et demi qu'on est déjà ensemble, voilà. Et il revient. Bah ouais, il revient à la fin de l'été.
Oh, putain.
Vraiment, c'est ça. Et je discute, et là j'y vais, je dis, tu m'as quitté parce que tu avais besoin de t'acheter une nouvelle voiture, ça? Non, mais si. Oui, mais tu comprends, Céline, voilà, ça coûte cher, donc c'est vrai que j'ai... Ah, donc oui. Donc j'avais vu juste. Et c'est quand même terrible. Donc, on ne peut pas construire une relation avec quelqu'un qui est capable de faire ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est impossible.
Ben non.
Ben non.
Mais ne serait-ce juste que sur l'honnêteté, quoi.
Ben tout, il y a tout qui va pas.
Ben oui.
Il y a rien qui va bien.
Waouh.
Ouais.
Oh. Ok.
Mais de cette expérience, je peux te dire qu'aujourd'hui, les radins, je les repère. C'est, tu sais, il y a une alarme. Et des fois, bon, ça peut paraître un peu... pas dans l'air du temps avec le discours féministe où on est égalitaire, où chacun paye sa part et qu'on n'a pas besoin d'être invité. Mais moi, je peux t'assurer que quelqu'un, soi-disant, veut me séduire parce que, voilà, il aimerait bien et qu'il n'est pas capable, au premier rendez-vous, de me payer mon café de manière, tu sais, avec juste un élan de générosité, on ne se revoit pas.
Oui, c'est pas pour le principe de t'inviter financièrement,
j'ai pas besoin.
C'est juste l'élan de générosité
qui va avec. J'ai pas besoin que tu m'entretiennes, on est bien d'accord. Par contre, on est bien d'accord que tu sembles être intéressée par moi et donc que tu veux me séduire. Si tu n'es même pas fichue d'avoir envie de juste, ok, c'est moi qui paye le coup, mais non, non, bah tu plaisantes. Tu vois, le tu plaisantes, pas, on va pas commencer à payer à 2,80€ toi, machin. Alors on va aller nulle part. Vraiment, on va s'arrêter là. Mm-hmm. Vraiment. J'ai eu un gars comme ça. Je l'invite, c'est lui. Hein, et vraiment, bon, j'écoute, je sais pas trop quand est-ce qu'on peut se voir, mais si tu veux, je joue tel soir, je joue au théâtre. Je t'invite, comme ça, à la limite. Voilà, j'ai pas beaucoup de soirées, mais là, on joue, et puis après, on va boire un coup. Ah, carrément. Donc le gars est invité à mon spectacle.
Ouais.
Il ne paye pas sa place.
Ouais.
Alors que je lui ai rien demandé, on est bien d'accord que c'est lui qui cherche à me voir, et bon, on va boire un coup. Et ben, il m'a fait ce coup-là, il a bu son verre, et machin, il avait le mien, il a payé que sa part. Et je peux dire une phrase crue.
Vas-y, vas-y.
Et vraiment, c'est ce que je racontais à mes potes et tout. Tu sais, quand on est un peu en mode pote d'armée.
Ouais.
Je dis, le gars, il est pas fichu de me payer mon coca et il croit que je vais avoir envie de le sucer.
Ah non, mais c'est clair.
Tu vois, mais c'est ça. C'est-à-dire à quel moment tu te rends attractif, tu te rends séduisant. En fait, déjà, on est sur du terre-à-terre et t'as même pas honoré, en fait, le fait que moi, par contre, pour mon métier, mon art, je t'ai invité. Ouais. Ton cul, il coûte une place. Ton cul, il a pris la place de quelqu'un qui lui était potentiellement prêt à me donner cet argent-là. Et t'es même pas fichu de me payer ma limonade ou je sais pas quoi, ou mon thé. Eh, wait. Remballe.
Non, mais c'est clair.
Remballe. Et je me souviens que ce gars-là, en plus, il a à l'achat, je crois, il a un appart à Montmartre. Donc, on pressent bien que le gars, il est pas en galère. Hein.
Oh là là. C'est abusé.
Ouais, c'est... Mais tu vois, ça, c'est des natures. C'est-à-dire que je pense que le mec, même, ça ne lui traverse même pas l'esprit.
Ouais, ouais.
Donc, c'est sa nature. Il a pas la nature généreuse. Moi, je suis d'une nature généreuse. Donc, on est sur des valeurs opposées. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Tu t'en rends peut-être pas compte, toi. Mais moi, je me rends compte. Alors, tu sais quoi? Viens, il y en a un des deux qui est lucide. Il va prendre la décision pour les deux. Voilà.
Ouais. À part la générosité, il y a d'autres choses qui te font fondre chez quelqu'un?
Ah oui, bah, l'humour.
Ah oui, oui, oui.
Ça, on va pas se mentir, hein. Si tu me fais rire, il y a de fort fortes chances qu'en fait que tu me séduises. Mais ça, c'est pareil aussi en amitié. Hein.
Ouais.
C'est pas... En fait, c'est les gens. À partir du moment où quelqu'un me fait rire, ou en tout cas avec lequel je peux partager le rire, je lui demande pas d'être artiste stand-upper au quotidien, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais au moins qu'il soit réceptif à l'humour. Parce que pour moi... Être réceptif à l'humour ou être drôle, c'est un signe de vivacité d'esprit.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, déjà pour moi, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que tu es vif, ça va vite. Donc, tu vas percevoir mes moments de... Non pas que je sois hilarante ou particulièrement déjante, mais j'ai quand même des traits d'esprit. J'ai quand même, à un moment donné, des visions. Donc, tu vas me suivre. Donc, on va se comprendre. Et on va pouvoir surenchérir, toi et moi.
Oui, c'est s'embarquer dans un univers...
Voilà.
Imaginaire commun, quoi.
Ouais, et je trouve que voilà, les gens qui sont vifs d'esprit et qui comprennent l'humour ou qui sont capables de faire des traits d'esprit sont des gens qui ont une forme d'intelligence, de fait, et ça me séduit. Et comme j'adore rire, parce que pour moi le rire c'est un vrai moment de joie, je touche au bonheur quand je ris. Ouais. Je touche vraiment au bonheur pur. C'est-à-dire que le bonheur pur c'est quand je ris. Tu vois, quand vraiment je ris, je suis heureuse. Alors donc du coup, forcément, celui qui me fait rire me rend heureuse.
Ok, tu viens de dire une phrase très bien, à pile 30 minutes d'enregistrement.
Oh.
Tu vois, on va même pouvoir finir sur ces mots incroyables.
Je te prends une bouffée.
Vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter?
Non. Enfin, c'est, tu sais, c'est toi, tu me guides. Je prends plus de décision en ce moment. Bon, franchement, si c'est... Tout ce qui peut ne pas m'incomber en termes de choix, en ce moment, je dis fais comme tu veux, décide pour moi. Ah ouais, vraiment quoi.
Bah moi ça me va. On a,
c'est
on
bon
a dit les choses qui
cool font,
qui étaient très intéressantes à mon sens et je te remercie beaucoup d'être là.
Bah merci.
À bientôt et je vous aime.
Vous pouvez retrouver Céline sur Instagram, Céline Olinsky, ou sur sa chaîne YouTube Céline H. Et ses romans dans toute bonne librairie. Le premier, Rupture, Tarot et Confiture, et le deuxième, Biberon, Vodka et Déambulateur. Dans ses livres, on suit Camille, un personnage drôle, attachant et maladroit, dans toutes ses petites aventures de vie. J'espère que ça va vous plaire, moi j'ai dévoré ses livres. Je vous souhaite un très bon été.